Il vient d'être 18h à Niamey, 18h au studio Kalangou. Ravi de vous retrouver pour cette édition du 27 février 2019 au micro à Taher Rafika. Bonsoir chers auditeurs, à la une dans ce journal, satisfaction des commerçants à Koni, dans la région de Tawa et de certains transporteurs de Zender après la réélection du président nigérien sortant. Nous entendrons dans quelques instants leur réaction sur place au micro de nos correspondants. C'est aujourd'hui la journée mondiale des organisations non gouvernementales. La rédaction vous propose un zoom sur l'ONG Action pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant nigérien. Des groupes armés continuent de semer la terreur au Sahel. Nous discuterons des causes, mais aussi des solutions avec l'envoyé spécial du ministère français des Affaires étrangères de passage à Niamey. Ce sera notre partie magazine du jour. Le président sortant du Nigeria, Muhammad Buhari, a été réélu hier pour un deuxième mandat de 4 ans. Chez les commerçants de Koni, région de Tawa, et les transporteurs de l'axe Zender Kano, c'est la satisfaction. Pour eux, le président Buhari est un homme favorable à la coopération régionale entre le Niger et le Nigeria, notamment sur le plan économique et sécuritaire.
Aujourd'hui, avec son élection, le Zender ou bien le Niger tout entier, vraiment les relations vont s'accroître et très consolider. Notre souhait, c'est que nos relations entre le Niger et le Nigeria s'accroissent davantage et que les activités socio-économiques soient prospérées au niveau des Zender et que vraiment soient encore consolidées.
Nous sommes contents que ce soit le président sortant qui a eu la confiance de son peuple pour un deuxième mandat. Et nous, en tant que commerçants, nous avons constaté au cours de son premier mandat, la bonne marche de nos échanges commerciaux et surtout son développement. Nous souhaitons que nos activités se développent davantage et surtout de voir la sécurité rétablie, car s'il n'y a pas de sécurité, le commerce ne peut pas se faire.
C'était les réactions recueillies par nos correspondants Mustapha Mamansani de Zender et Assoumane Moussa de Koni. 735 ONG interviennent au Niger, dont 218 étrangères. Cependant, le directeur des organisations non gouvernementales et associations de développement déplore le manque de régularité dans le dépôt de certains dossiers de certains documents administratifs. Par exemple, en 2017, seulement 24% d'entre elles ont déposé des rapports d'activité annuelle, précise Mahamman Hamissou Abdoulabo à Habib Garba.
Chaque année, nous faisons la situation pour avoir un peu le nombre exact des ONG qui interviennent au Niger. La situation qu'on a présentement, c'est celle de 2017, puisque nous sommes en cours d'élaboration du bilan 2018. Alors, en 2017, nous avions enregistré 2735 ONG. Parmi les 2735, on dénombrait 2517 ONG nationales et 218 ONG étrangères. Donc, elles doivent avoir un arrêté, elles doivent avoir un protocole d'accord type, elles doivent déposer régulièrement leur rapport d'activité et pour tout projet à exécuter, elles doivent signer ce qu'on appelle un protocole de mise en exécution des projets. Parmi les 4 documents, sur la base du seul rapport d'activité, en 2017, on avait enregistré seulement 653 dépôts de rapports. Donc, vous comparez sur 2517, on a eu à peu près 24% des ONG qui, on peut dire qu'elles sont en règle uniquement sur la base du dépôt des rapports. Mais si on doit encore fouiller, on n'aura pas les 24%.
Notons que depuis 2014, le 27 février est célébrée la Journée mondiale des organisations non gouvernementales reconnue par l'Organisation des Nations Unies. À l'occasion de cette journée, la rédaction du studio Kalangou a interrogé la coordinatrice de l'ONG Action pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant nigérien AFN, Aïssata Harouna Maïga, dévoile les actions menées sur le terrain.
Le problème de la protection de l'enfance se posait avec acuité au Niger. Pour la question de la femme, en fait, vu le taux de croissance de la population, avec le taux d'analphabétisme élevé, il fallait agir.
En 8 ans d'existence, quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain?
En matière de protection de l'enfance, on a vulgarisé les textes de protection de l'enfance, à savoir la CDE. On a surtout fait des sensibilisations dans le monde rural pour la scolarisation de la jeune fille, contre le mariage des enfants et pour la promotion de la femme, nous avons œuvré en matière d'autonomisation, des formations en vie associative, l'accompagnement des groupements féminins. Les femmes travaillent beaucoup, les ONG féminines accompagnent surtout les femmes et les enfants. Il reste beaucoup à faire sur le terrain. L'impact n'est pas trop visible et surtout avec les questions de financement qui ne sont pas toujours acquises, c'est pas facile.
Propos recueillis par Diallo Mariam Kenda. 3,44 milliards de dollars américains, c'est le montant des annonces faites à Niamey hier par les partenaires à l'issue de la table ronde pour le financement du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Cet argent servira à financer le programme prioritaire, celui du démarrage du plan d'investissement climat. Les recommandations avec Keïta Aïdamba, ministre de l'Environnement du Mali, qui se réjouit de ces annonces qui dépassent le besoin exprimé. Propos recueillis par Alassane Kouzi Mahamadou.
La table ronde a enregistré des annonces de contribution de l'ordre de 3,44 milliards de dollars pour un besoin exprimé de 1,32 milliard de dollars, assurant ainsi très largement la couverture des besoins de financement pour la mise en œuvre du programme prioritaire pour catalyser les investissements climatiques au Sahel. Les partenaires techniques et financiers ont par ailleurs encouragé les pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel à mettre en place un cadre de concertation avec les partenaires techniques et financiers, cadre devant assurer la cohérence et la synergie des différentes interventions. Par ailleurs, les PTF ont encouragé les pays à accorder une attention particulière à l'agroécologie comme approche promouvant une agriculture résiliente. Aussi, ils les ont encouragés à redoubler leurs efforts visant à mobiliser des financements climat à travers les différents mécanismes et entités dédiées du secteur privé notamment.
Restons dans le même chapitre pour parler à présent des attentes de la jeunesse vis-à-vis des dirigeants de la Commission climat pour la région du Sahel. Lundi, à l'occasion de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement, l'opportunité a été donnée à certaines structures des jeunes de formuler leurs attentes. C'est le cas de l'Association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Sani Ayouba, son responsable, nous résume les messages phares qu'ils ont passés, notamment la nécessité de prendre en compte la jeunesse dans la mise en œuvre plan d'investissement climat. Toujours avec Alassane Kouzi Mahamadou.
Et dans notre intervention, nous avons, comme je l'ai dit, salué les leaderships des autorités qui ont permis d'aboutir à ces processus, mais également l'urgence d'agir. Nous avons appelé à impliquer les jeunes dans la mise en œuvre de ce plan d'investissement. Il faudrait qu'on puisse s'assurer que les différentes parties prenantes prendront part et joueront leur rôle. Et d'assurer également que ces financements puissent renforcer la résilience de nos communautés face au changement climatique. Le Sahel doit se développer, mais le Sahel doit aussi choisir le chemin du développement durable. Et le Sahel ne doit pas s'inspirer des modèles de développement d'ailleurs qui ont contribué à ces phénomènes de changement climatique, mais le modèle innovant qui existe aujourd'hui à travers la promotion des énergies renouvelables, à travers la prise en compte des connaissances endogènes, à travers la question des semences améliorées, la mise à disposition de nos communautés, les informations climatiques nécessaires pour qu'ils puissent prendre les décisions idoines. C'est de cela que nous avons besoin, pas seulement des discours, mais vraiment véritable appel à l'action.
Des médecins turcs sont venus offrir ces jours des soins gratuits aux malades d'Agadez. Le seul problème est que ces malades doivent attendre parfois plusieurs jours pour accéder à ces spécialistes de la santé. Quelques-uns ont accepté de témoigner au micro de notre correspondant Anissé Karim. Écoutons leur réaction.
Cela fait 4 jours que nous n'avons pas eu les médicaments. Certaines personnes ont pu en avoir, par contre d'autres non. Présentement, il y a un vieillard souffrant qui n'a rien eu.
C'est la troisième fois que je viens ici. Mon nom est inscrit, mais on ne m'a pas donné un numéro. Nous sommes nombreux à venir ici, tout un groupe. Personne n'a eu un numéro. Hier, ils nous ont dit, il faut aujourd'hui. Après notre départ, vers 16h, ils ont distribué les numéros. Je venais ici depuis 3 jours. Nous nous sommes organisés. Ils ont d'abord donné un numéro, qu'ils ont par la suite annulé, en donnant un autre numéro cacheté.
On souffre beaucoup ici. Avec la faim et la soif, on cherche à avoir le ticket depuis 2 jours, mais en vain. Nous faisons des va et vient ici depuis 5 jours, mais on n'a toujours pas accès aux médicaments.
Un an de prison avec sursis, 20 000 francs CFA d'amende, c'est le verdict contre l'ami Noumaï Daba au procès qui s'est tenu hier à Matamé, région de Zender. L'ancien champion de lutte traditionnelle de la région d'Agadez doit aussi restituer 80 000 naira, équivalent de 140 000 francs CFA, aux commerçants volés. Pour rappel, il a été arrêté et emprisonné il y a 9 jours suite à un braquage sur un commerçant de la ville de Meymoujia, ville frontalière avec le Nigeria. Du 25 février au 1er mars se déroule à Niamey le tournoi international de handball féminin de la zone 3 de l'Afrique de l'Ouest qui concerne 7 pays. En marge de la compétition, des entraîneurs seront aussi formés. Explication de Dr. František Táborský, représentant de la Fédération internationale de handball et formateur des entraîneurs.
C'est une compétition qui concerne la zone 3. La catégorie cadet et la catégorie junior des dames. Il était prévu 7 pays, mais malheureusement, nous n'avons présentement que 4. Le Niger, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Et les gagnants vont participer à la Coupe d'Afrique. Le gagnant de la Coupe d'Afrique aussi a la possibilité d'aller jusqu'à la Coupe du Monde.
Propos recueillis par Soumana Amadou. Poursuite ce mercredi 27 février de la 7e journée de la Super League de football, à l'affiche 2 matchs. À Niamey, l'AS Douane de Niamey affronte la Kokana d'Arlit et à Maradi, duel entre le Jangorzo FC de Maradi et l'Urana d'Arlit. Cette journée se poursuivra le week-end avec 5 autres rencontres, dont 4 à Niamey et 1 à Zender.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Installés au Sahel depuis plusieurs années, divers groupes armés continuent de semer la terreur, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Mali. De passage à Niamey, l'envoyé spécial du ministère français des Affaires étrangères a accordé une interview à Studio Kalangou sur les causes de ce fléau, mais aussi sur les solutions possibles. L'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
L'envoyé spécial de la France pour le Sahel s'exprime sur le terrorisme dans la région qui, selon lui, a des explications multiples. L'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier.
Il y a un gros sentiment d'injustice. Les groupes terroristes se sont installés au Mali, ils se sont installés dans le nord nigérien. Ils menacent particulièrement les frontières du Niger, du côté de Diffa. Ils menacent aussi les frontières du Niger dans la zone des trois frontières de Tillabéri que vous avez cité. On voit aussi sur la région du lac Tchad que les modifications environnementales, ce qui s'y passe, n'est pas sans lien avec le phénomène terroriste. De Boko Haram.
Donc c'est quoi la cause selon vous? Vous avez évoqué Boko Haram.
Pour moi c'est un mélange de plusieurs causes. Il y a toujours des causes politiques, des causes sociales, des causes économiques, des causes environnementales. C'est un ensemble. Il n'y a jamais une seule cause. Ce serait trop simple. Nous avons des bandits, des terroristes qui se sont armés, qui procèdent souvent à des massacres, à des enlèvements, qui terrorisent la population. La première chose que font ces terroristes quand ils arrivent dans des villages, soit au Mali, au Burkina Faso ou même un tout petit peu au Niger, c'est de fermer les écoles. Et de faire partir les chefs de village. Ils utilisent la force, ils utilisent la menace, ils utilisent les mines, ils appliquent une stratégie de terreur. Face à ces gens-là, il faut apporter une réponse militaire.
Est-ce que vous pensez que la solution militaire, c'est la seule solution qu'il faut appliquer pour permettre à cette partie du Sahel de recouvrer la paix et la stabilité?
Je ne pense pas que ce soit la seule solution, mais c'est une partie de la solution qui peut aussi être une réponse de sécurité intérieure avec la gendarmerie, avec la police, avec la garde nationale, avec la justice. Parce que c'est très important d'avoir la justice.
Bien que l'intervention française au Mali, jusque-là, certaines parties du Mali échappent au contrôle de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau?
Il faut mieux travailler ensemble entre le Mali et la communauté internationale. Nous faisons face à des adversaires qui ont leur agenda. Mais nous devons avoir notre agenda positif pour les populations. Nous devons répondre politiquement aux besoins de ces populations. Et ça, c'est bien sûr la responsabilité des États du G5 Sahel. Ils sont au premier chef dans ce combat. Le Niger est au premier chef dans ce combat, mais il a besoin du soutien entier de la communauté internationale derrière lui.
C'est la fin de cette édition. Restez à l'écoute de nos programmes avec la rediffusion du forum sur la valorisation et la consommation des produits locaux présenté par Mokhtar Hamadou.